Chalie m'était contée. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Après le décès de Julien de Saint-Germain, dont nous avions narré l'aventure auprès de Catherine de Médicis, pour petit rappel, je peux simplement dire que, alors qu'elle était à Blois, évidemment, elle est aux dernières extrémités, elle fait appel à un confesseur, et finalement, Lucien n'est pas là, on fait appel au confesseur d'Henri III, qui s'approche de Catherine de Médicis, et à un moment donné, cette dernière lui demande son nom et il lui répond « Saint-Germain ». Or, vous vous en souvenez peut-être, c'était un nom maudit, puisque on lui avait prédit, ses astrologues lui avaient prédit qu'elle mourrait auprès de Saint-Germain. Alors, après le décès de Julien de Saint-Germain, qui fut, je vous le rappelle, abbé en commande de Chalie, on voit arriver le nom d'Abel de Montliard, qui se propose lui-même de remplacer l'abbé de Saint-Germain comme abbé commendataire de Chalie. Alors, je vous rappelle ce qu'est la commande. La commande, c'est une initiative de François Ier et du pape qui ont mis en place un accord qu'on appelle le Concordat, tout simplement. Et par cet accord, il est donné au roi de France la possibilité de nommer à toutes les grandes titulatures ecclésiastiques, c'est-à-dire de nommer les abbés, de nommer les évêques, les archevêques, à quelques exceptions près. Et cette commande, et c'est peut-être aussi le but de cette prochaine émission, a été véritablement une catastrophe pour le clergé, pour les monastères en particulier, qui vont subir des abbés commendataires qui se moquent complètement et de la vie monacale et de son organisation. Ils ne sont intéressés que par les revenus de l'abbaye. Et pour souvenir, je vous rappelle que le premier abbé commendataire fut Hippolyte de Deste, le cardinal de Ferrare, qui lui commença déjà à prélever des sommes considérables sur les revenus de l'abbaye, à savoir environ les deux tiers. On va donc voir arriver à Chalie un personnage un peu particulier que cet Abel de Montliard. On va s'empresser. Alors, bon, il est très lié à la famille de Harlay. Alors, il n'est pas le propos ici de vous raconter que la famille de Harlay est très liée avec les grands organismes parlementaires de cette période. Mais le futur abbé, donc, dans un premier temps, est nommé trésorier de la Sainte-Chapelle, etc., etc. Et lorsqu'il veut devenir abbé de Chalie, on va s'empresser de lui faire monter très rapidement les degrés du sacerdoce. Hein. Donc, en 1585, Abel de Montliard reçoit le titre d'acolyte. Hein. Alors, l'acolyte, sa fonction, c'est d'accompagner le prêtre et le diacre pour lui rendre tous les services possibles. Il s'agit essentiellement du service de l'autel. Hein. Donc, il reçoit le titre d'acolyte, puis assez rapidement de sous-diacre, et on continue. Et le 18 juillet, par une bulle solennelle, alors une bulle, je vous rappelle que ce n'est pas les petites bulles que fait le pape, hein, c'est un édit qui porte ce nom. Hein, on dit une bulle papale pour la bonne raison que le sceau du pape était sphérique, en quelque sorte. Voilà. Cette même bulle le nomme en même temps qu'il est diacre, abbé, commendataire du monastère de Chalie, sur la présentation du roi Henri IV, et conformément donc au concordat intervenu entre le Saint-Siège et le roi François Ier. On va le retrouver aussi prieur de l'abbaye de Die, puis ensuite au monastère de la Chapelle aux Planches, dépendant de l'ordre bénédictin. Là, on est dans le diocèse de Troyes et de Langres. Et pendant une quinzaine d'années, finalement, il ne se passe pas grand-chose parce qu'on soupçonne véritablement cet Abel de Montliard de népotisme. Je vous rappelle, le népotisme, c'est le fait que on favorise son neveu, en quelque sorte. Les abbés, en principe, ou les cardinaux, n'ont pas le droit d'épouser. Hein. Et donc, ils favorisent les enfants de leurs frères ou de leurs sœurs. Il a dû, Abel de Montliard, témoigner que nulle fraude, nulle simonie, hein, c'est ainsi écrit, n'a entaché les lettres de provision obtenues en cour de Rome pour la dite abbaye, bien sûr, il s'agit de Chialy, et pour en prendre possession en son nom, et donc on va procéder à l'insinuation des dites lettres. Alors, évidemment, les cérémonies sont assez compliquées. On va voir, par exemple, qu'il ne doit pas participer directement à la vie du monastère, il va déléguer un procureur, qui va tout simplement s'occuper de ses intérêts à titre de délégué du commendataire Abel de Montliard. Finalement, vous voyez, il a fallu 15 ans. Hein. Ce n'est que le 9 janvier 1601 qu'un procès verbal est dressé par un certain Toussaint Puleux, prêtre notaire apostolique, etc., etc., qui va nous mettre devant cette évidence. Abel de Montliard devient, en vertu des lettres apostoliques du pape Clément VIII, en date du 1er juillet 1600, et sur présentation du roi de France Henri IV. Alors, il faut savoir que tout cela se fait avec un cérémonial extrêmement précis.
La cérémonie ayant été marquée par l'entrée dans l'église de Chialy, l'aspersion d'eau bénite, le baiser du grand autel, le toucher du missel, la sonnerie des cloches, l'installation sur les stalles supérieures à droite et autres cérémonies rituelles, sans opposition de quiconque, le tout suivi de la lecture à haute voix des bulles et lettres de collation en présence de tous les moines réunis dans le chapitre au son des cloches, suivi de la réponse des religieux par la voix de frère Pierre Tavernier, prieur de la dite maison, reconnaissant le dit Abel de Montliard comme abbé du dit lieu et requérant copie de la dite bulle. Le dit acte étant passé, en présence de maître Philippe Loisel, archidiacre du diocèse, et l'abbé étant ensuite conduit à l'hôtel abbatial pour l'en mettre en possession.
Vous voyez, donc c'est bien une organisation très précise qui est mise en place à chaque fois qu'un abbé reçoit la commande du monastère. Ce qui n'empêche pas, par ailleurs, que, comme on pourrait le dire de nos jours, les travaux se poursuivent. Il faut savoir qu'en 1601, une sentence de commissaire député au diocèse de Paris demande l'exécution de la bulle pontificale du 30 janvier 1586. Alors, en quoi le pape intervient-il ? Ben, tout simplement, à travers ses représentants, il faut que Chialy procède à l'aliénation de la maison de l'enseigne du Faucon. C'était un hôtel abbatial qui se trouvait dans le quartier du Marais actuel, si vous voulez, non loin de l'hôtel de Beauvais, proche de la rue Saint-Antoine. Et on voit d'ailleurs cet hôtel déjà dans les contes du cardinal de Ferrare, la Casa del Faucon, hein, sur la rue Saint-Antoine. On voit cela apparaître. Mais il y a eu aussi des modifications dans les propriétés cisterciennes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Toujours est-il qu'à la suite de cette vente, on remet une certaine somme d'argent à l'abbaye de Chialy, quitte à elle, évidemment, de procéder à des travaux. Alors, pourquoi des travaux ? Il faut savoir que les effrois, les difficultés qui ont eu lieu dans la région ont provoqué la ruine de nombreux bâtiments. Je pense par exemple à l'hôtel du Petit Chialy, qui se trouve à Senlis, dans le quartier canonial, face au portail occidental de la cathédrale, mais aussi dans une grange importante, celle de Montabit. Alors Montabit, pour ceux qui ne connaissent pas trop la région, disons que ça se situe entre Ermenonville et Mortefontaine. Et il est donc ordonné que, de la somme qu'ils reçoivent, les moines doivent restaurer, je dirais même, tous ces bâtiments qui ont été ruinés par les derniers troubles. C'est l'expression que l'on utilise. Par la suite, on va trouver un nouvel abbé, et cet abbé, c'est tout simplement ironie de l'histoire. Mais non, l'histoire n'est pas ironique, c'est du calcul. C'est tout simplement le neveu d'Abel de Montliard. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'Abel de Montliard, il a gardé la place au chaud. hein, pendant plus de 15 ans, en attendant évidemment que le neveu, qui était vraiment un bébé, puisse accéder, et par l'âge et aussi par sa condition, à la commande de l'abbaye de Chaly. Et donc, par une lettre de confirmation, le voilà tonsuré, etc., etc., par l'évêque quand même Henri de Gondi, l'évêque de Paris, hein, en 1616, prenez vos repères, hein, 6 ans après l'assassinat d'Henri IV, hein, cette nomination est entérinée par l'official de Paris, et les bulles de provision, comme on dit, donnent à Achille de Harlay l'abbé de Chaly. Mais il n'a pas terminé ses études, hein. On signale qu'il est encore au Collège de Navarre, il est encore en train d'apprendre, en quelque sorte. Bon, les cisterciens, en général, n'ont jamais véritablement eu la vocation pédagogique. Hein. Mmh. Donc, ils expédiaient au collège, dans les collèges parisiens, leurs moines, afin que ceux-ci puissent parfaire leur éducation. Et là, en l'occurrence, c'est le Collège de Navarre. Officiellement, le 18 décembre 1616,
acte de la prise de la possession de l'abbatiat de Chaly par Daniel Micret, chanoine de Senlis, procureur de l'abbé, commendataire nommé de l'abbaye, Achille de Harlay, effectué devant la porte de l'abbatiale au son des cloches et devant les pères, les frères de l'abbaye, puis, après entrée en église, aspersion d'eau bénite, génuflexion devant le crucifix du grand autel et son baisement, toucher du missel, installation sur les sièges supérieurs de l'église, sonnerie de cloches, toucher des livres et ornements et toute autre pratique usée en ce cas, puis conduite à l'autel abbatial, mise en possession officielle de l'abbatiat devant la foule des assistants dont les principaux sont nommés. Publication de la dite prise de possession et constat de l'annonce faite au prône dans les églises de Montagny, d'Ermenonville et de Fontaine les 5, 10 et 15 janvier 1617.
Voilà, alors vous voyez que le rituel se poursuit et qu'à chaque passation de pouvoir, en quelque sorte, il est scrupuleusement respecté. Alors, bien sûr, on peut s'étonner de voir le respect vis-à-vis des ornements de l'église, c'est normal, mais surtout vis-à-vis des livres. Alors on se dit, ce sont probablement les livres qui servent à dire la messe, pas du tout. Hein. La vie des moines de Chaly, au moment de la commande, a été quand même une vie de paupérisation constante, en quelque sorte, ces moines restent des intellectuels, comme on dirait de nos jours, et continuent de produire des études extrêmement intéressantes, bien sûr sur des sujets religieux pour la plupart du temps, mais il représente, ces volumes, une bibliothèque tout à fait extraordinaire qui va intéresser, on le verra un peu plus tard, des moines en quelque sorte spécialisés dans la conservation du patrimoine. Alors, comme on l'a vu au début de l'émission, la commande d'une abbaye, bon, c'est tout simplement comme un salaire, quoi. C'est un revenu, c'est comme un paquet d'actions, etc. C'est-à-dire que ça s'achète, ça se vend, ça s'échange. Alors, à un moment donné, Achille de Harlay va échanger l'abbaye de Chaly. Hein. Donc, il a peu de respect, évidemment, pour les moines qui s'y trouvent. Il l'échange avec un personnage quand même assez important à l'époque. C'est le cardinal Louis de Guise, archevêque de Reims, pair de France, légat du Saint-Siège, etc., etc., etc. Donc, il va donner l'abbaye de Chaly, la commande de l'abbaye de Chaly à cet éminent personnage, mais il va recevoir de son côté une autre abbaye. C'est l'abbaye de Saint-Urbain de Châlons. Mais comme l'abbaye de Saint-Urbain de Châlons rapporte beaucoup moins que l'abbaye de Chaly, eh bien, en plus de cette abbaye, Louis de Lorraine va s'engager à lui verser une somme assez conséquente, en gros 7000 livres tournois, qu'il dégagera bien sûr sur la revenu de Chaly, pour que l'échange soit à peu près, je dirais, équilibré. Alors, on va retrouver là encore toute une série d'actes qui sont liés, bien sûr, à l'activité pontificale. Et certaines, d'ailleurs, de ces bulles sont approuvées fiat ut petitur, comme on dit. C'est-à-dire que c'est le pape lui-même qui signe de sa main, il signe fiat qu'il soit fait, hein, selon ce qui a été demandé. Ça veut dire que c'est quand même un texte important. Parce que sinon, c'est le... Comme on dirait de nos jours, c'est le secrétariat qui se serait occupé de cette passation. Alors, en 1619, c'est officiel en quelque sorte, mais ce qui m'a surpris dans les archives, c'est de lire que... alors, il y avait quand même des conditions. Il fallait que, surtout, ils ne se mettent pas à vendre les biens quand même de l'abbaye. C'était la moindre des choses, il me semble. Mais que, de toute façon, il était tenu de verser sa pension viagère de 7000 livres à Achille de Harlay, avec lequel il venait de faire échange, même s'il venait à se marier et à consommer ce mariage. Ça nous étonne un peu, évidemment, vu de notre siècle, de voir que dans une bulle papale, il est tenu compte, en quelque sorte, d'un état de fait qui est pour le moins étonnant, le mariage d'un évêque, d'un abbé, d'un cardinal, etc. Et on verra que ce n'est pas la dernière fois qu'on aura l'occasion d'évoquer tout cela. Bien sûr, tous ces gens se connaissent parfaitement, que ce soit Harlay, Lorraine et compagnie. Et c'est Louis III de Lorraine qui va devenir à son tour, vous voyez, on continue dans la lignée, qui va devenir à son tour abbé commendataire de Chaly. C'est un personnage là encore important, archevêque de Reims, mais surtout, là aussi, surprise, combattant redoutable. Il a de qui tenir, hein, c'est le troisième fils d'Henri Ier de Guise, celui qu'on appelait le Balafré, hein, et de Catherine de Clèves. C'est le neveu du cardinal Louis II de Guise, assassiné par ordre d'Henri III, lui aussi, comme son frère le Balafré, hein, à Blois en 1588. Et puis, pour nous relier avec la famille d'Hippolyte d'Este, c'est le petit-fils d'Anne d'Este, donc la nièce d'Hippolyte d'Este. Alors, ce cardinal un peu spécial, quand même, eh bien, il épouse Charlotte des Essarts, une ancienne maîtresse royale, semble-t-il, mais enfin, bref. Tout ceci ne regarde pas. Il a un fils. C'est ce fils, Charles-Louis, qui va obtenir à son tour la commande de Chaly. Vous voyez, c'est quand même une succession pour le moins étrange. Mais je voudrais quand même dire qu'il ne s'agit pas de juger ces faits historiques à travers la morale contemporaine. Bien sûr, nous, ça nous choque. Et on se dit, mais c'est une histoire de fou, quoi. Tous ces prêts-là qui commettent quand même des actes répréhensible, hein, parce que qui n'a aucun respect de la chose religieuse, de la règle, et qui délègue simplement ce qui les intéresse, c'est l'argent, c'est tout. Et ce n'est pas fini. Parce que le fameux Charles-Louis de Lorraine, qui succède à son père, qui s'était marié, je vous le rappelle quand même, hein, c'est l'archevêque de Reims. Bon. Et on est dans les années 1621. Donc là, on attaque le règne de Louis XIII. Mais ça ne va pas durer longtemps. Charles-Louis de Lorraine, il est assez connu pour sa vie un peu curieuse, lui aussi. Pour la petite histoire, on dit de lui qu'il avait un acte de naissance irrégulier quand même, hein, fils d'un archevêque, ajouté le tort d'une vie irrégulière également. Et pour notre région, sachez que ce Charles-Louis de Lorraine est inhumé dans une église proche de chez nous. Il est inhumé dans l'église d'Assy-en-Mulsien. Ah oui. Donc, si vous trouvez un Lorraine dans l'église, ben, ne vous posez pas trop de questions. Mais avant de terminer cette commande, c'est-à-dire quoi, avant de mourir, bien avant, eh ben, à son tour, il échange. Il échange avec un autre abbé, Jean d'Estrade. Et puis, à son tour, celui-ci va échanger avec un autre abbé, Jules-Paul de Lyon, l'abbé de Chaly, avec celle de Saint-Malène de Rennes. C'est peut-être le dernier, Jean d'Estrade, qui ait mené quand même une vie, je dirais, sans jeu de mots, régulière. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain respect, non pas vis-à-vis des moines de Chaly, beaucoup, beaucoup plus par rapport à son évêché. Alors, toute cette vie dissolue, autant l'appeler ainsi, va attirer évidemment la critique d'un certain nombre d'historiens, de religieux, et je pense par exemple à l'un d'entre eux qui s'appelle François Delfaux. C'est un théologien bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, et je m'arrête quelques secondes sur cette congrégation pour dire qu'il participe des érudits qui vont faire un travail extraordinaire de sauvegarde des manuscrits qui sont dans ces lieux réguliers, dans ces abbayes, dans ces monastères. Un travail extrêmement utile. On peut dire, peut-être, les mauristes, on les appelle ainsi, sont probablement les organisateurs de la sauvegarde du patrimoine. Par la même occasion, je dirais malheureusement pour lui, François Delfau va critiquer la commande.
Quelle est donc la vocation des abbés commendataires ? Pour le dire en un mot, c'est une vocation de cupidité qui ne suit, qui ne recherche que l'intérêt. C'est une vocation de péché qui n'appelle qu'à l'injustice. C'est une vocation de réprouvé qui va contre les ordres de Dieu et qui ne porte que l'impiété. C'est ce que je les convie de méditer dans le secret de leur cœur. Si ce passage d'un bénédictin du XVIIe siècle est tombé sous les yeux de l'abbé de Lyonne, il a pu penser qu'il s'adressait à sa vocation comme à celle de tant d'autres de ses contemporains. Mais sans chercher le secret de son cœur, contentons-nous de marquer les principales étapes d'une vie représentative à ce point de vue, en dehors de l'intérêt qui s'attache à la carrière de l'héritier d'un grand nom.
Alors, ce moriste, hein, ce bénédictin moriste, qui critique la commande, en gros, il dit que c'est une catastrophe hein, pour ces lieux réguliers, eh bien, cet ouvrage qui va sortir, qui est nommé l'abbé commendataire ou l'injustice des commandes, etc., etc., va lui valoir les foudres du roi, hein, de Louis XIV, en personne, qui lui fait expédier une lettre de cachet, c'est pas rien, hein, avec bannissement. Donc la sanction est brutale, et vous voyez qu'être historien apporter des déconvenues tout à fait certaines, c'est moins qu'on puisse dire. Alors nous sommes arrivés dans notre longue liste à Jules-Paul de Lyonne. Alors ce Jules-Paul de Lyonne est le fils du célèbre Hugues de Lyonne, ministre et secrétaire d'État de Louis XIV. Dans les mémoires de Saint-Simon, lorsqu'il fait l'oraison funèbre de notre personnage, il est très court. Voilà ce qu'il dit. Jean-Paul de Lyonne, il mourut obscurément dans le prieuré de Saint-Martin-des-Champs, où il avait passé sa vie presque sans voir personne. Il avait été débauché et accusé de vendre ses collations. En 1670, à la mort de Jean d'Estrade, il obtient l'abbaye de Chaly, mise en commande, etc. Le premier abbé commendataire, nous rappelle-t-on, était le cardinal de Ferrare.
C'était si Chaly m'était compté, avec Jean-Marc Vasseur, attaché culturel et pédagogique de l'Institut de France à Chaly.